Sébastien Lévesque, comment vas-tu?
Ça va très bien et toi, Émile Gauthier?
Ça va très bien et j'en profite pour vous annoncer que notre très attendue saison 8, ayant pour thème les Rabbit Holes, débutera le 4 octobre prochain sur toutes les plateformes.
Mais si vous êtes un membre Patreon, où que vous soyez dans le monde, elle débutera en avance, soit le 27 septembre. Patreon, c'est une plateforme de sociofinancement à abonnement mensuel qui vous donne accès à du contenu exclusif de Distorsion et à tous nos épisodes en avance, le tout sans publicité. On vous offre deux forfaits exclusifs pour nous supporter.
À 3 $ canadiens par mois, vous avez accès au forfait Distordu, qui vous offre un shout-out dans un épisode, l'accès au serveur Discord VIP, accès aux épisodes réguliers en avance, accès aux épisodes bonus en avance, 10 % de rabais sur la boutique, et ce, à chaque mois.
On a aussi le forfait Oui, monsieur! À 8 $ canadiens par mois, vous obtenez tout ce qui est inclus dans le forfait Distordu. Vous avez en plus accès à du contenu exclusif qui est dédié à ce forfait, comme un after-show après chaque épisode, des interviews, des discussions off the record, etc. Vous avez aussi également accès à un épisode secret par saison, sans parler que vous avez accès aux épisodes secrets des saisons précédentes. Également, vous avez 20 % de rabais sur la boutique à chaque mois.
Rendez-vous au patreon.com/distorsion pour vous abonner et devenir des commanditaires officiels de Distorsion.
On vous remercie énormément de votre soutien et bonne écoute.
Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur
Lindsay Savannah Rath showed no visible emotion when hearing her sentence, life in prison. Last year, she pleaded guilty to conspiracy to commit murder for her role in planning a mass shooting at a Halifax mall.
Des histoires étranges de l'ère numérique.
Le 12 février 2015, une source anonyme avertit les autorités canadiennes qu'un plan machiavélique est en cours de préparation.
Un petit groupe de jeunes adultes prévoit un massacre dans le centre commercial d'Halifax le jour de la Saint-Valentin.
Lindsay Souvanarap, une jeune femme de 23 ans en provenance de Chicago, est arrêtée à l'aéroport d'Halifax pour avoir pris part à ce plan.
L'enquête autour de ce complot nous amènera dans les confins d'Internet, sur le côté sombre de Tumblr, au sein d'une communauté d'extrême droite appelée les Columbiners. Sébastien Lévesque, comment ça va ce soir?
Ça va bien et toi, Émile Gauthier?
Ça va bien aussi, légèrement enrhumé, mais je pense qu'on va passer au travers.
Oui.
On parle d'un sujet très intéressant ce soir, une histoire sombre, une histoire qui s'est beaucoup déroulée en ligne aussi, la tuerie d'Halifax qui devait avoir lieu à la Saint-Valentin 2015, heureusement, n'a pas eu lieu, étant donné que justement, il y a eu des indices envoyés par un témoin anonyme sur Internet. Donc, on va remonter au travers de toute la planification de ce massacre-là qui devait avoir lieu au centre commercial d'Halifax par un petit groupe de gens fascinés par la tuerie de Columbine. Donc, on va parler de plein de sujets importants, de sujets actuels ce soir, dont la radicalisation en ligne.
Oui, parce que c'est un phénomène qui est de plus en plus grandissant.
Mm-hmm.
Et on le sait, les chambres à écho en ligne, pour ceux qui ne savent pas, là, c'est des endroits sur le web où ce que vous allez, par exemple, sur Facebook, votre fil de nouvelles Facebook, il va représenter une chambre à écho pour vous parce que c'est toujours, souvent, on est abonné à des pages qu'on aime,
mm-hmm.
À des gens qu'on aime suivre, qui ont la même opinion que nous. Nos amis, généralement, ont un peu les mêmes valeurs, les mêmes opinions que nous. Donc, on vient à se regrouper toujours avec des gens qui pensent comme nous.
Exactement.
Et ce phénomène-là, il peut être bien, mais en même temps, des fois, pour des gens qui peuvent se radicaliser, ben ça amène un côté sombre, hein, parce que là, ça... Plus tu contactes des gens ou plus tu es en contact avec des gens qui, disons, qui sont une mauvaise influence pour toi, même en ligne, mais ça va générer ça, là.
Oui.
Et ces gens-là viennent de partout dans le monde, en fait. Ces sujets-là de radicalisation, généralement, on s'entend maintenant, c'est assez dilué hein, dans la population.
Oui.
À cause des sites web ou des blogs comme Tumblr, vous allez voir, on va vous en parler, ben ces gens-là qui ont un intérêt commun se rassemblent ensemble et se radicalisent ensemble au quotidien.
Exactement. On va parler de sous-culture ce soir, entre autres issus de Tumblr, de nazisme aussi, oui. Évidemment, parce que c'est au cœur de cette histoire-là. Puis évidemment, de tout ce qui est des tueries dans les écoles, oui. Et dans les lieux publics qui font rage encore énormément aux États-Unis. Notre histoire de ce soir devait se dérouler à Halifax, c'est un peu différent, mais n'empêche qu'il y a quand même cette culture d'armes à feu et de tueries là, qui persiste plus que jamais au cours des dernières années.
Ah oui, c'est assez fou, hein. En 2019, là, la plupart des gens doivent être conscients là, comment qu'il y a eu de tueries de masse, mais au mois d'août, il y avait autant de tueries quotidiennes que de nombre de jours dans l'année. Donc, en moyenne, aux États-Unis, il y avait une fusillade par jour.
Ah oui, puis on n'en parle pas toujours.
Ben non, exactement. Puis je disais que la moyenne de morts par fusillade, c'est 8 morts. Mm-hmm. C'est quand même pas rien. Puis que la plupart du temps, les gens qui commettent ce crime-là, c'est soit du suicide ou sont la plupart du temps abattus par les autorités. Avouez que c'est fou, hein, qu'une tuerie par jour.
Ah oui, ça n'a aucun sens.
Tu sais, dans un pays quand même, tu sais, oui, ils ont un problème avec les armes à feu. Ben là, on le voit, là, mais c'est... Je trouve qu'il y a quelque chose de dérangeant là-dedans. Là, c'est les gens ont peur d'envoyer leur enfant à l'école. C'est que ça crée un climat de peur continuel. Hein. On dirait que t'es jamais sûr. Quand tu vas aller quelque part, si tu te feras pas tirer, tu sais ça.
Exactement. Heureusement, cette histoire-là, le complot n'a jamais été exécuté, ce qui est bien. Mais vous allez voir, toute cette histoire-là est quand même assez tordue. On n'a pas le choix aussi de donner un shout-out à notre ami Jordan Bonaparte du Nighttime Podcast, qui lui a eu la chance de faire une interview avec Lindsay Souvanarat à partir de la prison où elle est en ce moment. Donc, ils ont vraiment eu accès à de l'info exclusive. On va vous en parler ce soir. On va citer Jordan à quelques reprises, mais vous allez voir, c'est une histoire dark, mais une histoire très fascinante qui peut servir d'exemple pour d'autres situations à venir qui, j'espère, pourront être évitées. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'on boit ce soir, Seb?
Ce soir, on boit la Balade en radeau de La Gabière. C'est une microbrasserie de Saint-Jean-sur-le-Richelieu que Émile et moi, on adore beaucoup. Et cette bière-là, la Balade en radeau, c'est leur mensuel d'octobre. Mm-hmm. Parce que le La Gabière, depuis quelques mois, sort une bière thématique à chaque mois. C'est une genre de session IPA, un peu de style nord-est, comme on aime bien, Émile et moi. 7% d'alcool et elle a vraiment des gros accents d'ananas et de noix de coco.
Oui.
C'est comme un pina colada bière un peu.
Oui, une bière hawaïenne.
Oui, exact. C'est une meilleure description. Puis c'est très, très bon. Et cette bière-là nous a été offerte par Sophie. Donc, si vous voulez faire comme Sophie, nous offrir une tournée de bière, c'est une très bonne manière d'encourager le show. Comme vous le savez, vous avez juste à vous rendre sur notre site distorsionpodcast.com. Il y a un onglet dans le haut, tournée de bière. Vous suivez le processus et voilà.
On a aussi une review 5 étoiles sur Apple Podcast qui nous vient de Julian. Shout out à toi, Julian. Il nous dit « Merci pour votre podcast que j'écoute avec avidité et surtout, je l'écoute dans mon ambulance tout au long de la journée, ce qui rend les journées encore plus passionnantes. » Comment dire? J'espère que Distorsion ne te distraira pas trop dans ton boulot d'ambulancier.
Oui, c'est ça, pas faire une erreur médicale en écoutant notre podcast.
Ouais. Par ailleurs, on va aussi remercier tous ceux qui nous ont acheté de la merch récemment avec le code promo saison 5 que vous pouvez utiliser là, sur le boutique.distorsionpodcast.com. Vous avez 25% de rabais sur tout notre catalogue de marchandises magnifiques. Vous allez voir, il y a des t-shirts, des casquettes, des tucs aussi, là, des bonnets pour l'hiver. On ship partout là, en France, en Amérique du Nord, en Europe et c'est vraiment pas compliqué. Donc, merci de nous encourager. Des fois, ça peut être long le shipping, on avoue, hein, parce que on gère pas l'inventaire nous-mêmes, c'est géré à partir d'entrepôts en Europe et aux États-Unis. Donc, parfois, c'est un peu long, mais jusqu'à date, tous les colis se sont rendus.
Oui.
Seb, là-dessus, je pense qu'on n'a plus rien à dire. Est-ce qu'on est prêt à se plonger dans l'histoire du complot de la Saint-Valentin?
Oui, monsieur.
C'est parti.
Le 12 février 2015, la Gendarmerie royale du Canada d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, au Canada, a été informée par l'organisme Crime Stoppers que deux individus, un certain James Gamble et une certaine Lindsay S., envisageaient de commettre une tuerie de masse dans un centre commercial d'Halifax pour la journée de la Saint-Valentin, soit le 14 février.
Avant d'aller plus loin, c'est quoi au juste l'organisme Crime Stoppers?
Oui, bonne question, Émile. Crime Stoppers, c'est le Canadian Crime Stoppers Association, donc l'association canadienne d'échec au crime. C'est une organisation internationale de bénévoles. Eux sont dévoués à réduire la criminalité et à résoudre des crimes. Leur slogan, c'est « Aidons à arrêter, résoudre et prévenir le crime ensemble ». En fait, juste pour vous expliquer un peu l'origine de cet organisme-là, que honnêtement, je connaissais pas avant de travailler sur ce cas-là, c'est vraiment intéressant. En juillet 76, Albuquerque, au Nouveau-Mexique, shout-out à Breaking Bad, il y a un étudiant universitaire qui a été tué lors d'un vol dans une station-service. Après 6 semaines d'enquête, la police n'avait que très peu de pistes sur le suspect. Les enquêteurs se sont dit que si le public est en mesure d'observer une reconstitution du crime à la télévision, cela pourrait amener un citoyen à fournir des informations pouvant le conduire à son arrestation. Les enquêteurs de l'époque ont eu une très bonne intuition parce que il y a une personne finalement, après qu'ils ont reconstitué, ils ont fait une reconstitution du crime, il y a une personne qui a contacté le département de police dès le lendemain et les informations fournies ont été suffisantes pour conduire la police aux deux hommes qui étaient responsables du vol. Donc, ça a même pas pris 72 heures pour que les autorités puissent résoudre le crime à cause qu'ils ont diffusé une reconstitution à la télévision. C'était la première fois que ça arrivait. Et c'était le début de l'organisation de Crime Stoppers. Et depuis le lancement, il y a 1700 entités, en fait, de Crime Stoppers dans 32 pays. Fait que c'est assez répandu. Et eux, ils ont résolu plus de 425 000 crimes.
Puis maintenant, ils ont une présence en ligne, là, je présume.
Oui, exactement, sur crimestoppers.ca. Si même vous voulez être bénévole ou quoi que ce soit, même comprendre mieux le fonctionnement de l'organisme, je vous invite à y aller. On retourne à notre histoire. L'informateur, un tipster, lui, parlait de deux suspects. Un Canadien et une Américaine. Donc, le FBI est immédiatement mis sur le coup également. Selon les autorités, les suspects qui ont été identifiés ont eu accès à des armes à feu et sont considérés comme une menace suite aux différents messages qu'ils ont laissés sur les réseaux sociaux lors des derniers jours. Ayant déjà leur nom pour enquêter, ils parviennent rapidement à les repérer et à mettre un plan en place pour empêcher un drame de se produire. Nous sommes toujours le 12 février.
Tôt le lendemain matin, le 13 février, je vous rappelle que nous sommes en plein hiver au Canada, la police se rend à la maison d'un des suspects liés au complot de cette tuerie. Il habite à Timberley, une banlieue près d'Halifax. Il serait le maître d'œuvre de ce complot. Il s'agit de James Lee Gamble, âgé de 19 ans seulement. Sachant que le suspect habite avec ses parents, les autorités attendent discrètement que ceux-ci quittent pour le travail afin de les interroger individuellement. Les autorités leur expliquent la situation et leur demandent calmement de les laisser faire leur travail, car ceux-ci insistent pour qu'ils aillent chercher eux-mêmes leur fils à l'intérieur de la maison. Mais les autorités trouvent cela trop risqué compte tenu du fait qu'il y a possibilité d'avoir des armes à feu à l'intérieur de la maison. Enfin, on se doute bien qu'il y en a, étant donné le tuyau envoyé par le tipster de Crime Story.
Exact.
Les parents insistent et supplient un des enquêteurs sur place de plutôt appeler à la maison et de demander à James de sortir et de coopérer. Ils sont convaincus qu'il va coopérer sans problème. Il est jeune, bon, il n'a jamais commis de crime auparavant, tout ça, bon, il n'y a pas vraiment de raison de s'énerver avec ça. L'enquêteur discute rapidement avec James au téléphone. Celui-ci est coopératif et accepte de sortir de la maison. Cependant, peu de temps après avoir raccroché avec l'enquêteur, il se tire une balle dans la tête dans sa chambre à coucher. Il est mort sur le coup. Dès qu'ils entendent le coup de feu, l'équipe tactique entre à l'intérieur rapidement et après avoir fouillé la maison, ils ont retrouvé 3 fusils à canon long, présumément pour être utilisés lors de la tuerie prévue le lendemain.
Au même moment, à l'aéroport Stanfield d'Halifax, les policiers arrêtent Lindsay Souvanarat et Randall Stephen Shepherd, qui a été identifié lui aussi comme un troisième suspect lié à la planification de la tuerie de masse qui était prévue le 14 février. Lindsay avait été arrêtée préalablement par les douaniers car elle voyageait sans valise. Ils trouvaient ça suspect. Parce qu'on s'entend, hein, c'est quand on part en voyage, même si c'est pour un court voyage, on a toujours un sac ou quoi que ce soit qu'on traîne avec nous.
Mais elle avait un sac, mais elle avait pas de valise enregistrée avec elle.
Exact. Mais ça, ça l'a levé un flag pour les douaniers. Randall, 20 ans, était un ami de James et lui, il était chargé d'aller chercher Lindsay, la petite amie en ligne de James, à l'aéroport dès son arrivée des États-Unis. Un autre suspect de 17 ans de la ville de Cole Harbour a aussi été arrêté chez lui, mais il a été relâché peu de temps après avoir été déterminé qu'il n'avait aucune idée de l'existence du complot ni de son implication dans ce dernier. On ignore son nom et même pourquoi qu'il était suspecté lui aussi d'être lié au complot, mais il était tout le temps dans les médias au début, mais on n'en sait pas plus sur lui, mais je voulais quand même qu'on, qu'on le mentionne.
Oui, donc on estimait qu'il y avait un groupe de 4 personnes à la base.
Exact. Les autorités ont appris que le trio avait l'intention de se rendre au centre commercial d'Halifax sur la rue Mumford et d'ouvrir le feu pour tenter de tuer le plus grand nombre de personnes possible avant de retourner les armes contre eux, bien sûr, le 14 février. Comment tout ça a commencé? On va parler un peu de Lindsay, cette Américaine qui a été arrêtée à l'aéroport d'Halifax au Canada.
C'est intéressant de regarder de plus près d'où elle vient, cette Lindsay. Lindsay Souvanarat est née à Chicago, dans l'Illinois, d'un père asiatique originaire du Laos et d'une mère américaine, mais d'origine européenne de l'Est. Elle vit avec deux frères et sœurs issus d'une relation passée du côté de sa mère. La famille mène une vie bien ordinaire, des vacances en famille à Disneyland, une vie bien rangée, des études payées, tout se passe très bien et bien normalement. Lorsqu'elle a 8 ans, sa famille déménage à Geneva, toujours dans l'État de l'Illinois. C'est dans cette petite ville de banlieue d'environ 21 000 habitants que Lindsay va commencer à s'isoler progressivement. C'est là qu'elle dit que tout a changé. Très tôt, Lindsay a de la facilité avec les technologies et les ordinateurs. Son père était d'ailleurs le programmeur informatique. Elle va très tôt commencer à jouer avec les ordinateurs et à installer des jeux vidéo. À l'école secondaire, au lycée, elle est membre d'un club de jeux de rôle, un RPG club, un peu dans le style de Donjons et Dragons. Elle va y passer beaucoup de temps. Elle aime le côté ludique des jeux de rôle, elle aime ça créer des histoires, faire évoluer des personnages. Elle va aussi très tôt s'intéresser à la littérature. Elle va se créer un blog qu'elle va entretenir avec des images qui l'inspirent. Elle va aussi commencer à écrire des genres de petits contes, des petites nouvelles sur son blog. Au départ, ses histoires sont toujours surtout de science-fiction ou encore de type fantastique, mais tranquillement, son style d'écriture va se diriger peu à peu vers l'horreur. Elle sera d'ailleurs fascinée par les creepypastas. Elle va en écrire quelques-unes, dont certaines qui vont devenir un peu virales, comme entre autres le My Pet Skeleton, qui est une histoire où elle amène son compagnon squelette un peu partout avec elle, puis c'est un peu une creepypasta un peu rigolote, je peux dire. Ouais. Mais aussi une autre qui s'appelle Come Resurrection, qui elle traite d'un sujet beaucoup plus sinistre, du meurtre. Donc faire des jeux malsains avec un cadavre pour tenter de le ressusciter. Donc celle-là est vraiment plus dark. Vous pouvez trouver ça sur le web, mais elle a écrit plusieurs creepypastas comme ça au fil du temps. On le sait que c'est pas nécessairement dommageable écrire des creepypastas.
Mais non.
Il faut pas aller à l'extrême. Mais pour elle, on dirait que ça a été le point de départ de quelque chose qui est devenu beaucoup plus sinistre. Vous allez voir au fil de l'épisode. Bien que ces histoires soient très sinistres, elles sont assez bien rédigées avec beaucoup de style. On voit que vraiment elle a une bonne plume, Lindsay. Elles auraient facilement pu se retrouver sur la section No Sleep de Reddit.
Oui.
Lindsay était quand même populaire à l'école. Elle était jolie, bon, elle a des traits asiatiques et européennes de l'Est, donc elle est quand même très belle. Elle avait un style vestimentaire très éclectique, un peu gothique, mais un peu japonais aussi, un peu en même temps, avec les cheveux, le teint parfois rose. Par contre, de plus en plus, elle va maintenir un jardin secret un peu plus radical, en s'isolant de plus en plus et en consommant de plus en plus de contenu obscur et extrême sur Internet. Là. Non seulement de l'horreur, mais des trucs avec des idées politiques encore plus extrémistes. En se promenant sur Tumblr un jour, le fameux site avec plusieurs blogs, elle tombe sur une œuvre d'art créée par un autre internaute, un national-socialiste, à ne pas confondre avec social-nationaliste. Elle va se lier d'amitié avec lui, il va lui expliquer tranquillement les bases de cette ligne de pensée. Bon, on pense à une hiérarchie au sein d'une espèce humaine divisée en races, au sommet de laquelle, bon, elle place la race aryenne. Les races les plus détestées sont les juifs, les slaves, les tziganes, et eux, ils forment un genre de sous-classe, les sous-hommes. En allemand, on dit les Untermensch, sans oublier les handicapés, les homosexuels, les migrants, les sans-papiers, tous ces gens-là sont catégorisés comme des sous-humains. On appelle ça communément des nazis.
Ouais.
Ce sera sa première introduction au phénomène, et comme vous savez qu'à force de contempler le mal, on en vient à le devenir, ses idées vont grandir en elle.
Merci Nietzsche.
À partir de 2011 et au cours des années suivantes, vous allez voir, c'est arrivé très vite, là, les opinions et la saveur des publications qu'elle fait sur Facebook vont s'intensifier. On va voir beaucoup plus de références à des meurtres, spécifiquement là, de « girlfriend killer ». Elle va toujours utiliser ce terme-là un peu. Là. Par exemple, elle va par exemple publier une photo là, de chaussures qu'elle s'est achetée, des chaussures à talons hauts avec des talons très fins et très hauts. Puis en guise de description, là, elle va écrire « ils sont faits pour trouer la gorge de ta copine ». Donc, bon, ça peut être... Il y a toujours... C'est toujours écrit là, sur le couvert un peu de l'humour noir et du sarcasme.
Oui, c'est ça.
Mais en même temps, c'est parfois un petit peu malsain comme publication. On voit qu'il n'y a pas toujours beaucoup de likes. Une de ses publications de 2013 indique « Je look tellement fabuleuse que je rends ta copine anorexique ». Donc là, on tombe un peu dans l'humour de mauvais goût ici.
Oui, effectivement.
Elle va aussi lancer un blog Tumblr intitulé « Cox Wastika ». Montrant un emblème de la croix gammée rose mauve avec le sous-titre « School Shooter Chic », avec le sous-titre « La violence est l'esthétique ». Étrange quand même. Elle s'intéresse de plus en plus au nazisme, à la glorification de la violence et à la mort. Elle n'y publiera pas que du contenu violent, elle va émettre aussi beaucoup de photos inspirantes de mode, de modèles qu'elle aime bien comme Marilyn Monroe, des citations de films, des selfies, etc. On va d'ailleurs remarquer que son look va beaucoup s'intensifier au fil des mois.
Oui, parce que quand tu regardes son site au sens large, bon, évidemment, il y a une grosse croix gammée à l'ouverture du site, donc ça donne le ton quand même. Sauf que plusieurs publications qui peuvent faire penser à ce que beaucoup de jeunes femmes de son âge pourraient publier, des citations de films, des photos de modèles parfois un peu dark, des choses comme ça. Donc, il y a rien de mal à tout ça. Non. Mais au travers de toutes ces publications-là, c'est là qu'on va trouver des choses un peu inquiétantes. Là. Vraiment, son look va changer beaucoup. Tu sais, elle va commencer, bon, elle a toujours eu un look quand même un petit peu dark, un petit peu goth, là, même si elle se définissait pas comme ça, là, mais un mélange de look un peu japonais, un peu goth, donc beaucoup de maquillage sur les yeux, des choses comme ça. Mais tranquillement, elle va même commencer à porter des habits militaires, des habits fascistes, carrément, là, avec des croix gammées, des choses comme ça. Elle va avoir aussi un look qui va se rapprocher vraiment un peu du black metal, là, avec des grosses bottes, avec justement des pics, des espèces de gros trench coats, des espèces de gros imperméables noirs. Elle va porter des masques, des choses comme ça, en gardant toujours un peu son look japonais. Donc, elle a l'air presque d'un personnage de film là, vers la fin. Là.
C'est vrai.
Ses propos vont eux aussi s'intensifier. Elle devient aussi membre d'un forum fasciste du nom de Iron March, où elle se décrit même comme une nécrophile. Elle se lie d'une relation en ligne avec le créateur du site web, un très populaire néo-nazi. Juste pour vous dire, là, des membres de ce site n'ont pas seulement comploté pour un massacre, mais ils ont aussi tué deux jeunes hommes, kidnapper un dentiste et tenter de l'assassiner à la machette. Mais ils ont aussi été pris avec des armes et du matériel pour fabriquer des bombes, entre autres choses. Mais les membres du forum trouvent qu'elle semble aller trop loin et qu'elle souhaite simplement attirer l'attention.
Oui, ce site-là, le Iron March, là, c'est vraiment le berceau de la radicalisation nazie en ligne. Vraiment, il y a eu plusieurs scandales qui sont éclatés autour de ce site-là. On pourrait faire un épisode entier sur ce site-là. Mais l'homme dont elle était amoureuse sur le site web, lui, il a jamais vraiment confirmé avoir eu une relation avec elle. Okay. Mais il s'appelait Savros. C'était un Russe. C'était son surnom. Là. Okay. C'était pas son vrai nom. Puis lui, c'est un grand, un prêcheur de cette mentalité fasciste. Elle était follement amoureuse de cet homme-là, puis elle fréquentait beaucoup ce site-là, là, qui est une très mauvaise influence là, pour le moins dire.
Mais ce site-là, c'était pas sur le dark web, hein? C'est sur le web de surface.
Oui, exactement.
C'est fou, hein. Je sais pas comment ils peuvent légiférer ça, mais c'est à la limite illégal, tu sais, du discours de haine. Il me semble que selon la loi, c'est pas légal, tu sais. Je sais pas comment ils font pour survivre ces sites-là.
Je présume que le forum en soi devait vraiment être privé, donc on peut plus se cacher, mais ça mériterait une investigation ultérieure.
Non, effectivement. Par ailleurs, elle va poursuivre des études en littérature anglaise puisqu'elle a déjà un certain talent dans ce domaine. Comme on vous disait, là, elle écrit plusieurs creepypastas. Toutefois, il va souvent y avoir de la friction entre elle et les autres étudiants en raison de sa vision fasciste qui prend de plus en plus de place dans sa vie. Elle aura beaucoup de difficultés à se faire des amis et à fréquenter les événements qui se déroulent au collège. Elle affiche son idéologie publiquement dans son look, mais aussi dans ses interventions en classe.
Elle disait entre autres à Jordan dans une des entrevues qu'il a fait avec elle depuis la prison que justement elle se retrouvait dans des cours de philosophie puis elle n'hésitait pas à lever sa main puis à dire ah, moi je suis nationaliste socialiste okay. J'ai des idéologies nazies tout ça puis ça créait toujours des malaises même les professeurs étaient pas trop à l'aise avec ça tu sais elle en parlait un peu comme si comme on parle de la pluie et du beau temps là, donc ça lui faisait ni chaud ni froid.
Pour elle, c'était quasiment une normalité. Il n'y avait pas de tabou.
C'est ça. C'est une idée comme une autre, mais elle croyait fermement à ces idées-là, là, aux idées de sous-race, de purification de la race, de maintenir une génétique pure. Donc, c'est des idées vraiment, vraiment extrêmes. Et moi, ça me fascine, moi, le fasciste aussi, là, à quel point, justement, Adolf Hitler a réussi à convaincre des gens à une certaine époque que c'était la voie de l'avenir. Là. Ça me met toujours à terre quand je pense à tout ça.
Ouais, moi aussi. Puis là, on se rend compte qu'il y a un genre de legs qu'il a laissé sur le web, même s'il dirige plus, bien sûr, il est mort, mais tu sais, puis qu'il n'y a pas tant de dirigeants nazistes dans le monde d'aujourd'hui. Mais on dirait que c'est justement cette culture-là, elle réussit à vivre à cause de l'Internet.
Oui.
C'est dérangeant pareil, hein. On dirait, moi, ça me met mal à l'aise. Je trouve ça plate parce que c'est quelque chose que je trouve qu'avec le bon sens qu'il faudrait C'est quelque chose qu'il faudrait éradiquer, tu sais, je veux dire, le nazisme, même juste dans sa pensée, je trouve que ça n'a pas sa place en ligne, malheureusement, mais on n'a pas de contrôle sur l'Internet.
En plus de cela, Lindsay va développer de plus en plus une fascination pour le massacre de l'école de Columbine, survenu en 1999, après avoir vu un meme Photoshop reprenant l'image iconique de la vidéo de surveillance de la tuerie. Donc, c'était... il me semble que c'est, si je me rappelle bien, c'était justement, bon, il y a une image iconique là, de la tuerie de Columbine où on voit même les gens décédés sur place. Ça, c'est très, très frappant. C'est tiré d'une vidéo de surveillance. Et elle avait ajouté là-dessus « I can't live without my best friends ». Donc, elle avait pris cette citation-là à partir d'un site de trucs un petit peu girly. Là.
Ouais, ouais.
Et puis, elle avait adapté à la tuerie de Columbine. Et bon, les gens de cette sous-communauté là, elle l'avait trouvé bien drôle.
Ouais.
Donc, plus elle s'expose à ce contenu, plus elle en développe une obsession et se rend compte qu'en utilisant le hashtag Columbine sur Tumblr, elle découvre du contenu là, qu'elle aime beaucoup et tout un monde. Là. Et elle en vient à se faire des nouveaux amis avec qui elle a beaucoup d'atomes crochus. Son blog commence à connaître une grande popularité là, dans cette sous-culture-là qu'on appelle les Columbiners. Et là, Seb, parle-nous un peu de cette sous-culture-là quand même assez extrême et quand même assez obscure.
Les Columbiners sont des passionnés de Eric Harris et Dylan Klebold, les auteurs du massacre de Littletown à Columbine, au cours duquel 13 personnes ont perdu la vie en 1999.
C'est un événement qui a vraiment choqué la terre entière là, à ce moment-là.
Ah oui, c'est fou là, comment ça a marqué l'Amérique. En fait, il me semble que de mémoire, c'est une des premières tueries de masse dans une école, ou du moins celle qui a eu le plus gros impact médiatique.
Oh oui.
On va vous rappeler les grandes lignes de la tuerie. La fusillade de Columbine, c'est une tuerie de masse qui s'est déroulée le 20 avril 1999 à l'école secondaire Columbine, qui est située à Columbine, bien sûr, près de la ville de Littletown, dans l'État du Colorado, aux États-Unis. Le massacre a été commis par deux adolescents impopulaires, maltraités et souffre-douleurs de leur école secondaire, Eric et Dylan. Ils ont pris la décision de se venger de leur tyran en tuant le plus d'élèves possible. Ils planifiaient depuis un certain temps le massacre de plusieurs centaines de personnes à l'aide de bombes et d'armes à feu. Eric et Dylan se sont suicidés après la fusillade, faisant de cet événement le 7e massacre. C'était le 3e à l'époque, le plus meurtrier qui a été perpétré dans une école aux États-Unis. Sans oublier non plus, là, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, la fusillade de l'Université de Virginia Tech en 2007.
Ouais.
Il y a eu la tuerie de l'école primaire Sandy Hook en 2012. J'avais tellement l'impression que ça faisait pas si longtemps, ça. La fusillade de Parkland en 2018 et le massacre de l'Université du Texas en 1966. Ça, je dois avouer que je le connaissais pas avant de faire la recherche, ce massacre-là au Texas.
Oui, grosse historique de tuerie quand même aux États-Unis.
Ah, c'est assez fou, là. L'enquête relative à la fusillade a été menée en consultant leurs journaux intimes papier et leurs traces numériques. en questionnant leurs amis, leurs proches, parce qu'il n'y avait pas beaucoup à l'époque laissé tant de traces que ça en ligne. Hein.
Mm-hmm.
On se remonte à 99, l'Internet n'était pas ce qui est aujourd'hui. Puis il avait commencé d'une certaine manière à se radicaliser en ligne sur un de ses blogs, mais rapidement, vu que ça l'a attiré l'attention, il s'est mis plutôt à faire ça de manière anonyme dans un journal papier. Qui partageaient, ben Eric et Dylan, les deux faisaient ça, puis ils se sont mis à tomber sur le mode papier. Puis c'est ce qui a permis aux enquêteurs de trouver, parce que sinon, il y avait pas tant de traces que ça qu'il avait laissé en ligne. Comme je vous disais, bon, l'enquête, elle a conclu que Eric Harris était un psychopathe intelligent qui se croyait supérieur aux autres et qui voulait avant tout blesser et tuer le plus de gens possible. Tandis que Dylan, lui, il était plutôt dépressif et rempli d'idées noires et de profondes tendances suicidaires. Toutefois, malgré cette enquête, les motivations des deux meurtriers sont quand même toujours restées obscures et le dossier, même après plus de 20 ans, n'est pas complètement fermé parce qu'ils n'ont pas les réponses à tout par rapport aux motivations. Donc, on dirait que pas qu'ils peuvent trouver d'autres coupables, mais d'une certaine manière, l'enquête n'est pas complètement bâclée, mais terminée.
Oui, c'est pas un dossier qui est facile à éclaircir, là. Vraiment, quelles étaient les motivations de ces deux jeunes hommes-là? Moi, je me rappelle, à l'époque, on avait blâmé Marilyn Manson parce que c'est ce qu'il écoutait, les jeux vidéo, tout ça. Donc, on cherchait un peu un démon extérieur à tout ça, alors qu'on voit que même eux, à cette époque-là, c'était quand même radicalisé via des chambres à écho, justement, via d'autres forums qu'ils consultaient à l'époque. Là. 1999, l'Internet n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, mais il y avait quand même certains endroits où tu pouvaient trouver un discours, parce que eux aussi, ils arboraient un discours fasciste et tout ça. Donc, ils étaient aussi dans cette lignée d'extrême droite, là, dans cette lignée de pensée-là.
Ce triste massacre a provoqué un grand émoi aux États-Unis et partout sur la planète. Ça a créé une psychose sociale, un peu comme on vous disait, entre autres sur le contrôle des armes à feu, de la disponibilité aussi des armes. C'est pas juste d'avoir des lois, mais le marché est plein d'armes aux États-Unis. La sécurité dans les écoles, là, je sais pas si vous vous souvenez, là, ils voulaient mettre des caméras, mettre des gardes de sécurité et tout. Là, c'est vrai que c'est devenu un peu une psychose collective. Et même l'impact de l'intimidation sur les gens, parce que la plupart des gens qui font des tueries, c'est toujours des gens qui ont été intimidés à l'école. Hein. Ça, on peut pas, on dirait que ça peut jamais s'enlever de l'équation, ce facteur-là, malheureusement. Bon, un peu comme tu le disais, les jeux vidéo, la musique ou même les films violents qui auraient pu influencer ça. Là. En plus de... À cette époque-là, ils ont questionné quand même la lenteur de l'intervention technique. Là. Ça a pris beaucoup de temps avant que l'équipe tactique rentre dans l'école. Là. Ils ont eu le temps de faire plein de morts. Puis ça, c'est toujours resté un peu nébuleux parce que la police était pas... Les autorités étaient pas prêtes à intervenir dans ce genre de situation-là. Là. C'était quand même une des premières de cette époque-là. Puis ça, après, ça a tout changé. Hein. Même partout dans le monde, on dirait que toutes les équipes tactiques ont développé des plans en cas de tuerie pour justement être un petit peu plus prêt puis peut-être éviter plus de morts lorsque ça arrive. Pour conclure là-dessus, comme vous le savez sûrement, il y a eu de nombreux films qui ont été faits sur l'événement, des livres, même la musique qui ont été inspirés du massacre de Columbine. Moi, un des films qui m'a marqué, c'est le film Elephant de Gus Van Sant. Moi, ça, là, ça m'a...
Mais le rythme est lent, très contemplatif. Tu les suis vraiment du début à la fin. T'as même une certaine sympathie pour eux.
Ouais.
C'était un film qui était très, très troublant, là, qui montrait comme un autre angle à cette tuerie-là.
Oui, moi, ça m'a un peu troublé. Ça m'a un peu troublé parce que quand t'écoutes, par exemple, le documentaire justement de Michael Moore, Bowling for Columbine, qui est plus documentaire, mais à la Michael Moore, là, tu sais, avec un certain biais, ben là, t'as un côté plus diabolique d'eux. Là. Puis Elephant, on dirait que ça montrait justement le côté humain, tu sais, puis pas qu'on défend ça, mais c'est ça, comme tu dis, l'angle était différent. Sincèrement, si vous l'avez jamais vu, puis vous aimez du bon cinéma de films comme ça, c'est vraiment un film à écouter.
Mais cette communauté-là, moi, j'ignorais complètement que ça existait, là, les Columbiners. Donc, eux, en fait, c'est des gens qui, encore de nos jours, vénèrent un peu là, Eric et Dylan. Ils vont faire des mèmes avec eux. Si vous fouillez sur le net, pas besoin d'aller très loin pour trouver où ils sont, là, ces Columbiners. Puis eux, pour eux, en fait, ces deux gars-là, c'est un peu comme des sauveurs un peu là, du nazisme. Ouais. Donc, eux, ils vont vraiment éliminer des gens pour faire en sorte que notre race soit encore plus pure, selon eux. Mais quand j'ai su que ça existait, moi, j'ai vraiment été sous le choc. Là. Je pensais pas qu'il y avait une communauté comme ça qui vénérait ces gens-là.
Ah non, moi non plus. Ça m'a jeté à terre, hein. Encore les chambres à écho, encore la radicalisation. Puis comment tu peux idolâtrer quelqu'un, un esprit qui tue tout le monde? C'est
ouais.
Faut être un peu dérangé, j'ose croire à la base.
On revient à notre histoire. Lindsay, elle, va aussi là, commencer à être plus active dans le milieu des Columbiners ouais. En créant justement des mimes à saveur nazie et en impliquant de plus en plus Eric et Dylan dans ses publications. Là. Une des images qu'elle va créer va être likée par un certain James Gamble qui possède lui aussi un blog Tumblr à saveur nazie et tuerie de masse. Son blog s'appelle « Shallow Existences ». James Gamble, pour vous en dire un peu plus sur lui, c'est un jeune dépressif de 19 ans qui habite chez ses parents à Halifax, là, en Nouvelle-Écosse, au Canada. Et sur son blog, ben, il publie des photos en lien avec la tuerie de Columbine. Mais lui aussi, là, publie des images à tendance néo-nazie, comme entre autres des photos d'Adolf Hitler. Il écoute du métal, joue de la batterie. Sur son blog, il va aussi poser lui-même sur des photos en bottes de combat avec des armes de chasse de son père. Il a toujours été ostracisé à l'école, même intimidé. Là, il l'a pas eu facile. C'est un jeune qui a été toujours isolé dans, ouais. dans les endroits où il s'est retrouvé, là, dans les écoles qu'il a fréquentées, ce qui l'a amené à devenir très solitaire et à avoir de la difficulté avec les relations sociales. Et encore une fois, il fit là, carrément dans le stéréotype de quelqu'un propice à être radicalisé comme ça.
Absolument. C'est exactement le profil type.
Et lui, il va se lier d'amitié tranquillement avec Lindsay, parce que elle aussi est un peu comme ça, t'sais, facilement influençable. Elle ouais. n'a pas été intimidée à l'école, mais étant donné ses idéologies qu'elle exprime publiquement, ben, elle se trouve à être ostracisée, puis elle se trouve à avoir aucun ami dans la vie réelle. Mm. Donc, ces gens-là vont vraiment se retrouver entre eux, puis ça va former un cocktail vraiment explosif. Son admiration pour Columbine est rapidement devenue l'atome crochu entre elle et James Gamble. Et après s'être rencontrés sur Internet le 21 décembre 2014, soit moins de 2 mois avant la tentative de la tuerie. Donc tout ça, ça va escalader très vite, là. On parle d'une période de 7 semaines entre la rencontre entre Lindsay et James et la fameuse tuerie qui devait avoir lieu. Donc c'est très rapide.
Oui, puis c'est devenu sa blonde. Ben, sa blonde virtuelle entre-temps, ça aussi, c'était assez rapide, là, cette idylle amoureuse.
James laisse lui aussi là, des cris alarmants sur les réseaux sociaux qui ne semblent pas vraiment faire réagir ses proches. En parlant de sa mère, il va un jour écrire sur Facebook « Je vais simplement entrer dans sa chambre lorsqu'elle dort et lui mettre une balle dans la tête. » Et malgré la gravité de la chose, personne ne semble prendre au sérieux. Il y a personne qui commente, il y a personne qui signale ouais. cette publication-là. C'est laissé comme ça, là, comme si de rien n'était.
Mais personne ne devait le prendre au sérieux, j'imagine. T'sais, j'ai l'impression qu'il y a sûrement un mélange de ça, mais c'est ça que je me demandais. T'sais, est-ce que justement, c'est parce que c'est quelqu'un qui est très solitaire, mm-hmm. que pas vraiment de vrais amis? Hein? On sait, des amis Facebook, c'est pas nécessairement tous nos vrais amis.
Non.
Est-ce que c'est un peu ça qui a mené à ce déni-là de la part des gens qui ont pu voir ça, ou justement une sorte d'indifférence, ou... On dirait que tu peux pas croire que quelqu'un va commettre ça, puis qu'il va écrire ça sur Facebook. Fait, j'ai l'impression que c'est un mélange de tout ça, mais sincèrement, soyez vigilants. Hein. Là, on en parle, qu'on dit pourquoi, mais si vous, par exemple, dans votre cercle, vous voyez par hasard sur un newsfeed un type de publication comme ça, n'hésitez pas à le reporter à Facebook, du moins, ou peut-être entrer en contact avec la personne si vous la connaissez, peut-être voir s'il n'y a pas quelque chose qui va pas. Là.
Et le couple va, entre autres, laisser plusieurs signaux alarmants comme ça. Là. James et Lindsay vont très vite développer une relation intime. En quelques jours, ils vont passer là, du classique « je te trouve mignonne » à échanger des textos et des photos à connotation sexuelle. Ils vont commencer à fantasmer à l'idée de commettre une tuerie en discutant à propos du fait qu'ils aiment tous les deux porter des vêtements intimidants. Donc, ils aiment porter des vêtements de groupe métal controversé, des vêtements même à saveur nazie.
Ouais.
Et ils fantasment à l'idée de commettre le crime en portant ces vêtements. Donc, ce que Lindsay décrivait entre autres à Jordan dans son interview, c'était justement ça. T'sais, ils discutaient de vêtements tout bonnement, puis c'est à partir des vêtements qu'ils sont venus à discuter de la tuerie. Comme quoi, eux, ils aiment intimider les gens en portant des vêtements provoquants. Puis que justement, si les deux arrivaient comme ça dans un endroit public, ben ça intimiderait tout le monde.
Ouais.
Et pourquoi pas les assassiner. Et là, ils vont s'échanger. En fait, ils vont commencer leur relation comme ça sur Tumblr. Par la suite, ils vont passer à Facebook et ils vont s'échanger là, des milliers de messages pendant ces semaines-là. Okay. Ça va devenir très, très intense. Lindsay, elle affirme même qu'à un certain moment, son horaire de sommeil était complètement perturbé.
Okay.
Elle pouvait passer des heures, en fait, elle pouvait passer la nuit à consommer du contenu comme ça, à parler à James, à planifier tout ça, mais se lever à 10 heures du matin et après se réendormir, se lever à 3 heures l'après-midi. Donc, elle était complètement collée à son écran d'ordinateur presque 24 heures sur 24 avec très peu de sommeil. Ce qui aide pas, là, justement, à se radicaliser puis un peu se brainwasher. Là.
Non, parce que ça, c'est des techniques hein,
oui.
De la part de souvent dans le temps pour te torturer ou pouvoir te soutirer de l'information, de faire des choses que tu voulais pas. Il y avait certaines sectes là, qui te privaient de sommeil pendant
oui.
des jours pour après ça mieux te manipuler. Ben, c'est vrai ce que tu dis, hein, c'est une conséquence de ça, avoir une mauvaise hygiène de vie peut, d'une certaine manière, amplifier ta radicalisation. C'est assez épeurant. Là.
Tranquillement, ça va même prendre des petites tournures paranormales, tout ça, parce que Lindsay affirme qu'au fil des discussions, elle se sentait habitée par l'esprit de Eric Harris et justement, James, habité par l'esprit de Dylan, comme s'il vivait en eux et qu'il devait justement accomplir un certain destin. Là. Il commençait à être sérieusement détaché de la réalité à ce moment-là. Le couple va discuter de longues heures sur Messenger à tous les jours, les rendant de plus en plus isolés. Ils vont entrer de plus en plus dans la logistique de leur plan. Ils doivent entre autres choisir le lieu du massacre en fonction de qui ils veulent éliminer au juste. Donc, ils vont avoir des discussions à ce propos-là. Évidemment, ces discussions-là qui vont tout être reprises par les autorités ouais. par la suite. Ils discutent tout d'abord d'une école, d'un hôpital, mais finalement, leur choix s'arrête sur un centre commercial en raison là, du capitalisme qui y règne. Donc, ils veulent passer un genre de message en attaquant un centre commercial. Apparemment, qu'une école, ça ferait trop comme justement la tuerie de Columbine, donc ils veulent pas les copier. Un hôpital, ça serait peut-être un peu, Lindsay, elle disait « pointless ». Dans le fond, il n'y a pas vraiment de raison de s'attaquer à un hôpital, ça enverrait peut-être un mauvais message. Un centre commercial, justement, on assassine des capitalistes qui ouais. dépensent de l'argent, là, donc c'est un endroit parfait pour eux. En plus, James désire par-dessus tout tuer des femmes catholiques parce que lui, c'est un peu son dada. Là. Il est anti-catholicisme, puis il veut assassiner des femmes d'âge mûr. Là. Je me demande si c'est un lien avec sa mère qu'il voulait assassiner plus tôt sur Facebook. Alors que Lindsay, elle, préfère là, des gens avec des mauvaises génétiques comme victimes potentielles. Donc, je sais pas trop qu'est-ce qu'elle voulait dire par là, mais je pense que c'est des gens qui sont peut-être moins beaux.
Des handicapés.
Des handicapés, des mélanges ethniques,
ouais.
des choses comme ça. Donc, elle semblait avoir une passion pour justement la pureté de la génétique et elle voulait les assassiner. Puis elle disait aussi qu'elle voulait assassiner des basic bitches du même coup, là.
C'est paradoxal parce que elle, c'est une fille d'immigrant. Elle est née de deux types de nationalités. Ses parents
oui.
viennent pas des États-Unis, tu sais, ils ont immigré là. Puis on dirait que son discours est un peu contre elle-même d'une certaine façon aussi là. Tu sais,
ouais.
je sais pas si elle s'en rend compte.
Elle disait qu'elle a jamais été exposée au côté asiatique en fait de son père. Elle n'a
okay.
jamais appris
ouais,
le langage.
Ouais.
Elles ont été séparées très tôt là, dans l'enfance. Donc elle s'est toujours plus identifiée à son côté blanc qu'elle
okay.
dit. Donc
ouais,
elle s'est toujours considérée comme une blanche. Donc sa mère avait des enfants d'une union précédente. Donc elle avait des traits différents. Puis je pense que ça l'a un peu, ça a un peu contribué à l'isoler aussi.
Ouais, ça fait du sens. Faut pas oublier aussi qu'il y a une troisième personne hein, qui est impliquée dans ce complot-là,
ouais.
qui s'appelle Randall Stephen Shepherd. Après s'être rencontrés au secondaire, James et Randall se sont liés d'amitié rapidement, entre autres pour leur intérêt commun pour la musique heavy metal, les films d'horreur, la marijuana et une fascination partagé pour la mort. Eux, ils discutaient justement régulièrement sur les fusillades dans les écoles et les tueries de masse. C'était une passion commune. James avait lui aussi un blog Tumblr qui s'appelait Shallow Existences, dont l'image principale était une courte séquence vidéo qui joue en boucle, prise depuis la cafétéria de Columbine High School. La même chose que tu parlais que Lindsay, elle avait. Donc, les deux avaient un peu le même thumbnail sur Tumblr. Si on revient à Randall, lui aussi avait un blog similaire sur Tumblr qui s'appelait Genesis to Genocide, donc la genèse du génocide, donc il y a un lien direct avec l'histoire des nazis. Eux, ils travaillaient ensemble chez Walmart, ils ont travaillé quand même plusieurs années là. On n'en sait pas beaucoup sur Randall, il n'y a presque pas d'informations dans les médias ou un peu partout, on dirait que c'était un peu le troisième personnage un petit peu moins impliqué dans l'histoire, qui a moins attiré l'attention des médias. Mais si vous cherchez, vous allez voir, il y a un look, il a les cheveux blonds longs. Quand il est arrêté, il avait un manteau de cuir. Il a l'air d'un chanteur de heavy metal, juste dans son look. Selon le plan initial, Randall ne devait pas prendre part au massacre en tant que tel. Lui, il devait aller chercher Lindsay à l'aéroport et possiblement filmer la scène au centre commercial. Donc, pas tirer sur les gens.
Puis eux, évidemment, ils voulaient laisser des traces de tout ça. Donc, de là, l'idée de filmer le massacre. Ils voulaient justement poster leurs trucs sur leur blog Tumblr, puis montrer à quel point ils ont eu une influence dans le monde des Columbiners. Ouais. Donc, ils voulaient faire ça en quelque sorte pour la postérité là, de cette sous-culture-là, ouais. Là, ce qui est quand même assez troublant.
Oui, devenir une sorte de héros aussi. Selon les documents d'enquête, le plan a été orchestré sur Internet durant 7 semaines. Le tout a commencé, comme on vous parlait plus tôt, lorsque Lindsay a rencontré James sur Internet en décembre 2014. Le 30 décembre, Lindsay poste un message très étrange sur Facebook que personne ne like, mais qui semble être un certain message d'alarme.
Oui, elle dit genre 2015 will be the year for action. No more sitting around waiting for someone else to start the war. Donc, je la traduirai pas, là, c'est assez explicite. On se rend compte que, justement, encore une fois, elle lance un message d'alarme comme ça, mais elle reste toujours vague. Donc, c'est dur d'entrevoir qu'est-ce qui nous attend.
Ben oui, tu sais pas, ça peut être une citation de quelque chose que tu connais pas ou quoi que ce
oui,
soit.
Oui.
Là. Au départ, ils voulaient exécuter leur plan le 1er février, mais les prix de transport étaient trop exorbitants. Ils ont donc opté pour le 14 février, car en plus de ça, ça enverra un message encore plus fort à la population, vu que c'est la journée de la Saint-Valentin.
Oui.
Lindsay devait se rendre chez Gamble, chez James, une fois arrivé à Halifax. Au préalable, James aurait déjà tué ses parents. Ils auraient perdu leur virginité ensemble ce soir-là, et Lindsay, elle aurait dormi là, bien sûr, et le lendemain, ils auraient exécuté leur plan. Randall, de son côté, voulait mourir tué par James. Le couple avait d'ailleurs créé une affiche pour officialiser leur projet, une affiche qui, bien sûr, les a trahis auprès des autorités.
Oui, on fait comme un poster, comme si vraiment il y avait un événement qui s'en venait, là, comme si c'était un concert. Donc, on les voit, ils ont posté ça sur Tumblr. En haut, c'est écrit en allemand « Der Untergang ». Et on les voit, les deux, ils se sont... Ben, Lindsay, elle porte un genre de masque de squelette avec ses cheveux et du maquillage avec un couteau. Et James, juste à côté, porte un genre de masque là, du film « Scream ».
Oui.
Un masque iconique. Et là, c'est écrit « Valentine's Day, it's going down ». Donc, c'est comme si on disait « ben ça se passe le jour de la Saint-Valentin ». Et ils vont même signer en bas le « Cox Swastika » et « Shallow Existences ». Donc, c'est particulier, ça. C'est comme si c'est vraiment, ils voulaient faire un événement de cette tuerie-là.
Ah oui, ça me rend mal à l'aise, ça, de voir ça. C'est un peu débile, là. C'est comme si de vouloir publiciser ça... Puis ça a resté, ça a fonctionné hein, d'une certaine manière, même s'il n'y a pas eu de tuerie. On est en train d'en parler, on parle de l'affiche, donc ils ont réussi à cristalliser leur événement là, puis leur plan là, d'une certaine manière.
Oui, oui, oui. Mais en même temps, cette affiche-là a hautement contribué à les incriminer.
Ah oui, absolument. Là. Ça, je trouve ça drôle, hein, cette naïveté-là qu'ils ont eue. On dirait que, puis c'est en 2015, là, c'est pas en 1996, là, où ils publiaient des choses sur Internet. On dirait qu'il n'y avait aucune idée que les autorités pouvaient les coincer ou que personne allait, disons, dénoncer ça, tu sais. C'était pas encrypté ou quoi que ce soit, là, ces messages-là sur Tumblr, là, c'était grand public. Le 12 février 2015, chacun d'entre eux était en train de terminer ses préparatifs en vue de l'exécution du plan et de la fin de leur propre vie. James Gamble se trouvait chez ses parents et se préparait à les tuer avant que Lindsay ne se rende chez lui. Lindsay avait acheté un aller simple de l'aéroport de Chicago en direction d'Halifax. Avant de partir, elle envoie un message à un ami. « I've purchased the plane ticket. I'm leaving for Canada tomorrow, and the only way I'm coming back is in a body bag. But it goes like this. I want to kill. He wants to die. Just like Eric and Dylan. »
Donc, encore une fois, un message envoyé à un ami là, sur les réseaux sociaux. Donc, elle s'est encore une fois hautement incriminée via cette trace-là. Donc, le matin du 13 février, là, Randall Shepard, là, lui, était à l'aéroport. Là, il était présent pour tôt le matin pour aller chercher Lindsay parce que les plans avaient changé. En fait, James n'avait pas pu tuer ses parents la veille en raison d'un changement d'horaire de travail de son père. Ouais. Donc, lui espérait les assassiner pendant leur sommeil. Donc, maintenant, Lindsay devait aller dormir chez Randall. C'était rendu ça le plan. Donc, Lindsay quitte la ville de Geneva où elle habite le 13 février, là, vraiment tôt, au petit matin, là, même dans la nuit. Là. Elle doit marcher environ 5 km à pied pour arriver à la gare et se diriger vers Chicago. Elle doit prendre plusieurs trains là, entre-temps. Elle décolle de l'Illinois vers Halifax très tôt le 13 février pour aller rejoindre James. Ce dernier devait trouver les armes du crime, donc des armes empruntées à ses parents. Lorsque Lindsay atterrit, elle se fait rapidement intercepter par les agents frontaliers. Selon son témoignage, elle n'avait qu'un seul sac avec elle, très peu d'argent et un billet aller simple, ce qui éveille les soupçons assez rapidement. Ouais. Les agents ont fouillé ses bagages et ont trouvé des livres là, à connotation néo-nazie, en plus d'un chapeau militaire muni d'une swastika. Ils ont tout de suite trouvé ça très louche, même dangereux. Ils l'ont gardée en interrogatoire pendant plusieurs heures en tentant de lui faire avouer son plan. Elle va même contacter un avocat entre-temps qui lui dit de ne rien dire et surtout de ne rien croire de ce que les agents avancent comme information. Il ne faut pas oublier qu'en plus de ça, les agents ont reçu une alerte d'urgence de la part de Crime Stoppers via un utilisateur anonyme d'Internet. Et là, les autorités vont la questionner vraiment là, d'une manière assez intensive. Ouais. Puis souvent, elle va même leur répondre, ben là, c'est le plan à James, c'était James qui voulait ça, parce que elle est pas tant que ça au courant de tous les lieux, du nom, du centre commercial, ces choses-là. Elle est pas dans sa ville à elle. Donc, à quelques reprises, elle va même renvoyer la POC vers James. Mm. Et à un certain moment donné, un des policiers va dire « James, il s'est éclaté la cervelle ce matin.
Oh. »
Mais comme son avocat lui a dit de ne rien croire ce que les policiers lui avancent, ben elle le croit pas tout de suite. Ah. Donc, elle va pas réagir sur le coup. Mais à un certain moment, ils vont vraiment lui dire « non, on te le confirme, James s'est suicidé ce matin. » Donc, Lindsay, elle vient d'atterrir à l'aéroport, elle se fait intercepter par les policiers, elle apprend la mort de son petit copain, puis Randall, lui, pendant ce temps-là, se fait intercepter lui aussi au même moment à l'aéroport. Et de son côté, Lindsay, elle, de son bord, va garder quand même beaucoup de secrets. Elle va refuser de parler, elle va même refuser d'appeler ses parents.
Ah.
Elle ne contactera jamais ses parents à part au procès. Donc, c'est vraiment un genre de blocage mental interne qu'elle s'est fait elle-même. Mais elle va souvent blâmer Randall d'avoir tout dénoncé le plan. Donc, Randall, de son côté, lui, tient moins, on dirait, un peu à cette idéologie-là. Il est moins impliqué dans le plan aussi.
Ouais.
Puis, donc, lui, il va pas hésiter à dévoiler toutes ces informations-là aux policiers puis faire en sorte que Lindsay vraiment soit arrêtée plus avec des preuves, là, plus sévère de ce côté-là. Mm-hmm. Donc vraiment, c'est là que vraiment le plan se termine. Et Lindsay, de son côté, ben même si elle avait prévu tout ça, doit vivre une sorte de deuil, le deuil de son petit ami qu'elle n'a jamais vu. Donc elle est très troublée par ce qui arrive, mais elle veut garder son sang-froid parce que justement, ben elle allait commettre un massacre. Donc elle veut pas projeter une image de faiblesse. Elle veut vraiment être en position d'autorité. Mais moi, je me dis en même temps, pourquoi elle a amené ces livres-là, tu sais, avec elle?
Ah,
elle prévoyait aller se tuer le lendemain.
Ouais.
Tu sais, est-ce qu'elle aurait eu le temps de lire 3 livres néo-nazis dans la journée d'ici là? Je sais pas. En même temps, peut-être qu'elle amenait ça pour, lire des passages ou...
Ou laisser un message.
Laisser un message en même temps. Mais je pense que c'est plus ça. Je pense que c'était de laisser un message. Mais avec tous ces points-là, je me dis des fois, est-ce que peut-être elle voulait pas se faire prendre, tu sais, parce que...
Ah, ouais, ben ça se peut, hein. Non, il y en a qui se jettent dans la gueule du loup volontairement, hein, tu sais, justement, hein, qui font exprès pour se prendre. On aurait plein d'exemples à vous dire. Donc, je sais pas si c'était ça. En même temps, son attitude de silence et tout ça, j'ai l'impression que non. Mais c'est vrai que c'est bizarre ce qu'elle a apporté avec elle. Mais c'est peut-être une source d'inspiration pour elle, autant que mon exemple est un peu tiré par les cheveux, mais tu sais que les catholiques traînent leur Bible avec eux.
Oui, un peu, ouais.
Fait que j'ai l'impression que c'est peut-être ça aussi.
Mais bref, finalement, Lindsay est arrêté, Randall aussi. Malheureusement, James Gamble, 19 ans, s'est enlevé la vie dans la maison de ses parents. Donc, d'une certaine façon, c'est un peu un échec de la part des autorités de ne pas avoir réussi à le sauver. Mais il a pas laissé beaucoup de chance non plus. Là, aussitôt que le téléphone a raccroché avec l'équipe tactique, il s'est envoyé une balle dans la tête. Et puis, Lindsay, ben évidemment, va être éventuellement amené devant la justice. Cette histoire-là va vraiment ébranler le Canada parce que on n'en a pas eu beaucoup, nous, des tueries au Canada. Très peu. On est reconnu pour être un pays très pacifique. Puis là, cette histoire-là, ce complot-là se dévoile devant nos yeux. Ça a choqué vraiment les médias, là. Mais heureusement, ça a été évité parce que ça aurait pu être terrible comme événement.
Moi, c'est vrai ce que tu dis, hein, mais James, si vous voulez voir une entrevue avec les parents de James, parce que eux, hein, faut pas oublier, ils ont perdu leur fils, mais ils ont appris aussi du même coup que leur fils menaçait de les tuer puis que c'était dans le plan initial. Imagine s'il n'y avait pas eu le changement d'horaire du travail du père. Il serait peut-être mort, là.
Ben oui.
Puis c'est ça, je vous invite, si ça vous intéresse, là, il y a une entrevue sur YouTube qu'ils ont faite avec la CBC. C'est vraiment touchant, là. Ils en parlent un peu plus de James, comment il était, puis comment eux se sentent comme parents, hein, parce que c'est des victimes, encore une fois, collatérales de ce type d'événement-là, puis souvent sont un peu oubliés.
Oui, puis même malgré son jeune âge, James, on se rend compte qu'il était pas là pour niaiser, là. Il pensait vraiment, il est allé au bout de la chose. Là, donc, fort est à croire qu'il aurait fait le massacre au centre d'achat. Là.
Moi, je suis convaincu. Puis je reviens à ce que tu disais par rapport aux autorités qui n'ont pas été en mesure, tu sais, de l'empêcher de se tuer. Ils ont quand même été blanchis. Hein. Il y a eu une enquête.
Oui, bien sûr, ben non, rendu là.
Oui, il y a eu une enquête, c'est ça. Puis ils ont tout fait ce qu'il fallait faire, tu sais, pour procéder. Mais ça s'est comme, tu sais, ça s'est fait tellement vite. Là, je pense que c'est presque dès qu'il a raccroché. Là, j'avais écouté un reportage. C'est presque dès qu'il a raccroché, ils ont entendu le coup de feu.
Oui, puis en plus, il avait dit qu'il devait collaborer, donc oui. L'équipe tactique a cru en ses bonnes intentions.
Non, exactement. Suite à leur arrestation, bien sûr, ils ont plaidé coupable. Randall Stephen Shepherd a plaidé coupable d'avoir comploté en vue de commettre un meurtre. Lindsay, elle a plaidé coupable d'avoir conspiré avec James Gamble entre le 21 décembre 2014 et le 14 février 2015. Dans le but de vouloir tuer le plus de gens possible au hasard dans un endroit public. Elle n'a démontré aucun remords en cours et elle représente toujours un danger pour le public selon les autorités. Le 22 novembre 2016, Randall a été finalement condamné à 10 ans de prison sur recommandation conjointe de son avocat et de la couronne. Lui, fait que ça va être un 10 ans ferme, là, mais il n'y aura pas une prison à vie. Là. Lindsay, elle, par contre, elle est condamnée à la prison à vie le 16 avril 2018, sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans. Elle aussi pour avoir comploté une tuerie de masse, complot en vue de commettre un incendie criminel, d'utiliser des armes à feu à des fins dangereuses et de véhiculer illégalement des menaces par le biais des médias sociaux. Parce que c'est illégal hein, de faire ça, même de laisser ce genre de message-là sur le web, on n'a pas le droit. La procureure voulait envoyer un message vraiment clair. Hein. Dès le début du procès, la couronne mentionnait que sa condamnation, ça ne pouvait pas être en bas de 20 ans. Là. C'était trop grave. Il n'y avait pas de jurisprudence d'un tel cas au Canada.
Non.
Il n'y en a pas de tuerie de masse ici ou de complot de tuerie de masse. Donc, il était vraiment difficile pour le juge de décider la bonne sentence. Finalement, ils se sont basés sur des complots terroristes. Ils trouvent que les actes ou la planification ressemblent énormément à ça. Donc, ils se sont basés là-dessus pour la condamner. Je fais une petite parenthèse sur la défense de Lindsay en cours qui était un peu particulière. Hein? Son avocat lui demandait à la couronne de pas la juger sur ses motivations et sur le fait qu'elle avait des pensées nazistes ou qu'elle était influencée par les Columbiners, de pas utiliser ça dans la peine. Mais pourtant, okay. C'est un peu étrange. Ou même que l'avocat disait que le plan, c'était juste un big talk, là, que c'était pas si sérieux que ça. Là, puis ça s'est décidé très, très rapidement. Mais tu sais, même si ça s'est décidé rapidement, À quoi ça change la motivation de l'acte? T'sais, je trouve que la défense est un peu faible, honnêtement. Là.
C'est sûr que, tu sais, elle a pas beaucoup de chance de son côté. Étant donné que Randall donnait beaucoup de détails sur le plan, ben, elle pouvait pas tellement se défendre. Donc, je pense qu'elle a essayé, justement, de diminuer un peu sa peine en jouant sur ces cordes-là. Ben, je comprends pas pourquoi elle voulait pas qu'on parle des Columbiners et tout ça, mais on a comme pas le choix d'en parler. Mais oui, moi, je comprends le plan que, justement, c'était une discussion. Ouais. C'était une grande discussion, un big talk, parce que c'est difficile à évaluer là, le risque hors de tout doute.
Ben oui.
T'sais, l'intention hors de tout doute, c'est dur à évaluer en course. On peut discuter de plein de choses, puis de ne jamais le faire.
Ben oui.
On le fait pour des bonnes choses aussi, hein, donc...
C'est
vraiment dur à évaluer. Mais quand ils ont vu que leur plan était tellement ficelé que James Gamble est passé à l'acte et s'est suicidé comme il devait faire, et de voir que Lindsay, elle allait aussi loin que ça, surtout son pas de remords, parce que elle a vu ça vraiment avec une froideur, hein. Elle a jamais émis aucune émotion en cours devant la juge, tout ça. Donc, ça a certainement pas joué en sa faveur.
Absolument pas. Puis le dernier argument que la défense utilisait aussi, c'est que Lindsay avait jamais utilisé de fusil avant la planification du complot. Mais tu sais, ça change rien. Là. Un fusil, c'est pas si compliqué que ça à utiliser. Puis ça, encore une fois, ça retire pas la motivation de faire cet acte-là de tuer.
Tu peux faire des dommages même si t'es pas très bon avec un fusil.
Là. Exact. Là, tu peux tirer partout, là. Lindsay, elle va porter son jugement en appel parce que selon elle, la sentence imposée par la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse était trop sévère, excessive et plus appropriée pour des coupables d'actes terroristes et non des gens qui ont juste fait un complot de meurtre. Par contre, malheureusement pour elle, en mai 2019, son appel a été rejeté par la Cour. Maintenant, elle a 27 ans, puis elle va rester en prison là, au moins 10 ans avant libération sur parole. Mais j'ai l'impression qu'avec l'attitude qu'elle a actuellement, si elle change pas, parce qu'ils sont suivis en prison, comme vous le savez, il y a quand même des tentatives de réhabilitation. On pousse sur la réhabilitation pour les prisonniers, pour les aider à les réintégrer à la société, mais faut que tu aies une bonne attitude, puis au moins exprimer du remords, ce qu'elle ne fait pas actuellement. Fait que j'ai malheureusement l'impression qu'elle risque de vraiment passer sa vie en prison, ou du moins une très, très longue période, et de ne pas sortir après 10 ans.
Ouais, j'ai l'impression qu'elle aurait pu... facilement, mais je dis pas facilement, là, mais je le dis avec des gros guillemets, là,
oui.
Elle aurait pu s'en sortir un peu mieux juste en ayant une meilleure attitude.
Absolument.
Juste en démontrant un peu de remords, mais on sent qu'elle est encore dangereuse. Quand on écoute des extraits d'interview avec elle, on sent que justement ça lui fait ni chaud ni froid. Elle parle de cette tuerie-là comme si c'était une marche dans le parc. Là. Ça lui fait vraiment rien. Puis elle a même affirmé que lorsque la juge a prononcé la sentence, pour elle, c'était un jour comme une autre. Parce que elle, de toute façon, elle allait mourir. Hein. Elle allait pas survivre très, très longtemps. Là. Elle était supposée mettre fin à ses jours tout de suite après la tuerie, comme Eric et Dylan. Donc, elle, qu'est-ce que ça change dans sa vie entre mourir ou aller en prison? Peut-être qu'elle aurait préféré mourir, finalement.
Oui, je me pose la question, hein, puis je sais pas si ces gens-là sont plus surveillés. Je sais pas si c'est comme dans une... Tu sais, en prison, ils surveillent les gens qui sont à risque de suicider.
Mm-hmm.
Mais j'ai rien lu, même dans les rapports de cours, qu'elle avait des tendances suicidaires. Donc, je sais pas si elle a une surveillance spéciale ou même si elle est isolée, tu sais. Est-ce qu'en prison, ce genre de... Tu sais, elle doit être dans une prison pour femmes, là. Est-ce qu'en prison, ce type de criminel-là est aussi ostracisé? Tu sais, versus, on le sait, il y a des crimes qui sont plus... Donc, sont moins appréciés par les autres prisonniers. Je me demande comment elle vit, même sa vie de prisonnière. Elle doit pas être beaucoup aimée. Hein. Les gens n'aiment pas beaucoup les tueurs, surtout des gens qui veulent faire des tueries de masse. Là. Donc, elle doit vivre quand même l'enfer là, en prison.
Ouais, bonne question. Je me demande aussi si elle n'est pas aussi dans une unité psychiatrique. Hein. Ça se pourrait, ça aussi. Puis je sais que c'est peut-être un peu moins difficile dans ces coins-là. À quelque part, elle est aussi jamais passée à l'acte. Hein. Fait que même si elle a comploté, j'ai l'impression qu'il y a quand même des plus grands criminels qu'elle dans ces ailes pénitentiaires-là. Mais chose certaine, ça doit être une des prisonnières les plus connues là, de son secteur. Parce que vraiment, cette histoire-là a fait vraiment le tour du monde. Mais oui, c'est ça. C'était tellement clair qu'ils avaient des intentions précises que c'est pour ça que justement ils vont rester en prison longtemps, puis que Lindsay elle s'en sortira pas aussi facilement. Puis tant qu'elle va garder cette attitude-là, elle n'aura pas là, sa libération sur parole dans 10 ans. Ce qu'on sait, c'est qu'actuellement, elle est en prison au Canada, en fait. Puis c'est qu'après ces 10 ans-là, elle va être transférée aux États-Unis. Donc, elle, évidemment, elle espère qu'elle laisse sa libération conditionnelle après 10 ans parce que les prisons aux États-Unis sont beaucoup plus difficiles que les nôtres au Canada.
Oui, absolument. Donc, on peut pas lui souhaiter, là, mais moi, je souhaite du moins qu'elle change d'attitude puis qu'elle exprime du moins des remords, mais j'ai pas l'impression qu'on va s'en aller vers ça.
Non, exactement. Ben, ça fait le tour de la chronologie des événements, mon cher Seb.
Oui.
Après, c'est sûr qu'il y a matière à réflexion autour de ce sujet-là. Si vous voulez vraiment en prendre plus de cette histoire-là, je vous suggère d'écouter le Nighttime Podcast de Jordan Bonaparte, parce que lui a fait 7 épisodes là-dessus. Donc, des interviews avec Lindsay, mais aussi des épisodes spéciaux avec d'autres spécialistes. Donc, c'est très intéressant à suivre. Donc, je vous renvoie vers Jordan, si vous voulez en savoir plus, vous allez voir, c'est à la fois dur et passionnant, mais il y a eu la chance de lui parler de la prison, donc c'est assez exclusif de sa part. Moi, de mon côté, ça me laisse beaucoup de tristesse, moi, cette histoire-là, parce qu'on a quand même perdu, d'une certaine façon, la vie de James Gamble, et aussi ces deux autres personnes qui sont en prison pendant longtemps. Tu sais, est-ce qu'il y aurait eu, ces gens-là sont intelligents, tu sais, est-ce qu'il y aurait eu moyen de les sauver avant qu'il soit trop tard? Moi, c'est une des réflexions que j'ai pas le choix de garder en tête. J'ai pas le choix d'avoir une certaine forme d'empathie pour des jeunes comme ça. J'ai de la misère à croire qu'il y avait le mal incarné en eux. Là. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, toi.
Ah, t'as raison, hein. Puis c'est drôle parce que justement, depuis plusieurs épisodes, on parle toujours que le mal nourrit le mal. Puis je trouve qu'encore une fois, on dirait que c'est la réponse à la question qu'on peut se poser, pourquoi ils ont fait ça, tu sais, puis pourquoi ils sont devenus comme ça, des gens, tu sais, je veux dire, Lindsay, elle habitait dans une bonne famille.
Ben
oui, des fois, les contextes familiaux sont plus difficiles, mais tout le monde vire pas comme ça, là. Tu sais, j'ai de la misère à comprendre comment, tu sais, il est où l'élément déclencheur, puis de ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est progressif, hein, le changement semble pas se faire du jour au lendemain.
Non.
Du moins, un peu comme, je le compare toujours aux sectes, puis à la religion, on dirait cet endoctrinement, parce que c'est un peu la même chose. Tu sais, c'est progressif, ça vient au fil du temps. Puis après, une fois que t'es très intégré, on dirait que t'es plus capable de voir autrement que les balises que la religion ou la secte donne par rapport à leur vision de la vie. Puis tu t'en sors pas de ça. Je me questionnais beaucoup, qu'est-ce que l'Internet peut faire, dans le sens que, exemple, tous les gros joueurs du web ou même les internautes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire quand ils voient du contenu comme ça qui est inapproprié, qui a, selon moi, pas sa place en ligne, même si je suis pour la liberté d'expression, je trouve qu'il y a des limites à la liberté d'expression, donc j'ai pas de réponse, tu sais, à comment empêcher ça, tu sais. Je sais que de plus en plus, par exemple, YouTube, ils vont retirer des vidéos où dès qu'il y a un semblant de message antisémite ou quoi que ce soit, ou de radicalisation, mais ils contrôlent pas tout l'Internet, puis ça, on le sait, là, l'Internet se contrôle pas autant qu'on le voudrait, là.
Parce que même si YouTube enlève les vidéos, ça change rien, ils vont les trouver ailleurs, les vidéos, ils vont trouver le contenu ailleurs. Faut qu'il y ait vraiment une intervention humaine, j'ai l'impression, pour sortir ces gens-là de ces echo chambers-là, puis de les sortir de leur endoctrinement, puis de leur dire, hey guys, tu sais, come on, là, vous êtes jeunes, vous avez plein de potentiel. Je comprends que James était dépressif, mais tu sais, à 19 ans, il y a beaucoup de jeunes qui sont dépressifs, mais qui finissent par s'en sortir. Tu sais, est-ce qu'il y a moyen de sortir de cette espèce de petite bulle de contenu extrême, puis de reprendre contact avec la réalité, parce que eux étaient complètement déconnectés. Ils étaient dans une espèce de... Ils étaient un peu dans un film d'horreur ou de science-fiction. Ils passaient tellement de temps en ligne qu'il n'y avait plus de réel contact avec le monde réel. Puis c'est ce qui est troublant. Il aurait fallu vraiment une intervention de humaine, histoire de les sortir de là.
Je veux pas mettre la faute sur les parents, tu sais, mais est-ce que la mère, est-ce qu'elle avait un bon contact avec sa mère, ou est-ce que sa mère avait déjà vu des signes précurseurs de ça? Puis, tu sais, même je m'en vais me poser la question, c'est que même si on dit toujours aux parents de surveiller leur enfant sur Internet, mais Est-ce qu'il faut les surveiller aussi quand ils sont adultes, tu sais, pour,
oui, c'est ça,
pour s'assurer?
C'est
ça. Fait que c'est difficile, c'est vraiment particulier comment que dans son entourage, qui semblait quand même restreint, que personne n'a levé de drapeau d'alarme. Puis même, tu sais, en faisant des recherches, je me suis mis à tomber sur des chaînes YouTube dépressives que j'appelle. Mm-hmm. Puis c'est, tu sais, souvent les YouTubers sont dynamiques, tu sais, c'est des gens vivants, de bonne humeur, mais il y a une certaine partie du contenu sur YouTube que c'est des jeunes IMO qui ont un discours négatif. Puis ça, on dirait que je savais un peu que ça existait, mais j'en avais jamais écouté. Ça fait mal, là. Tu sais, ils vendent même de la marchandise, là. Exemple, j'ai vu un, ça m'a traumatisé, là. Le chandail, c'est New Day, New Disappointment.
OK.
Tu sais, ça fait qu'à chaque jour, t'as un nouveau...
Une nouvelle déception.
Tu sais, comme si la vie est toujours négative, va toujours avoir arrivé quelque chose de mal. Tu sais, c'est complètement contraire à une vue positive de la vie. Non, mais ça encore là, ces chaînes-là sont créées par des jeunes, c'est sûr, c'est écouté par des jeunes. La chaîne, je ne veux pas la nommer pour ne pas lui donner de pub, mais elle avait plus de 300 000 abonnés.
Mm-hmm.
300 000 abonnés. C'est moi, là, ça m'a jeté à terre, tu sais. Fait que je mets mon discours, si vous êtes des parents, là, même de plus jeunes, parce que ça peut commencer quand même à l'adolescence, hein, cette radicalisation-là, surveillez un peu ce qu'ils écoutent sur Internet, parce que c'est pas parce que c'est sur YouTube aussi que le discours a l'air... parce que de l'extérieur, ils sont habillés normal ou presque. Tu sais, un petit look gothique ou emo, mais tu sais, mm-hmm. c'est pas tous des radicaux puis des gens négatifs. Ben donc, soyez vigilants par rapport à ça. Moi, c'est un peu ce qui aussi m'a traumatisé dans les recherches par rapport à l'épisode. Autre point qui est assez étrange, puis on va vous les mettre sur le site web, c'est les liens vers les profils Facebook de ces gens-là. Moi, ce qui me fascine, c'est, bon, le profil de James qui s'est suicidé, c'est les nouveaux profils Facebook quand quelqu'un meurt, là, puis tout est figé dans le temps. Mais pour Lindsay puis Randall, c'est drôle, hein, parce qu'ils n'ont pas retouché à leur page Facebook.
Non, ils sont encore là.
Ben, c'est ça, depuis leur arrestation. Puis moi, à chaque fois que ça nous arrive dans des cas de retomber sur une page Facebook qui est pas active, mais qui est vivante sur le site, puis que tu vois les dernières photos, c'est toujours intéressant d'observer les derniers changements de photos de profil, les commentaires, les amis. C'est quelque chose qui vous intéresse. Des fois, ça permet de mieux comprendre les personnages de nos histoires, parce que tu peux faire le fil de leurs photos. Justement, vous allez voir, tu sais, un peu tout ce qu'on vous parlait, là, leur radicalisation progressive, les costumes qui se mettaient, le type mm-hmm. d'habillement. C'est quand même quelque chose d'étrange, parce que ça fiche dans le temps. Puis Facebook, tu sais, ils ferment pas ces sites, tu sais, ils ont pas l'autorité. Comment, je sais pas comment dire ça, mais ils ferment pas les profils Facebook, même si quelqu'un est condamné, là, ils n'ont pas cette loi-là, ou je sais pas trop comment dire ça, là, mais ils n'ont pas cette règle-là qui implante.
Non, c'est clair. Malheureusement, au bout de tout ça, il y a quand même eu un certain héritage de cette histoire-là au sein des Columbiners. Lindsay est un peu, parce que j'ai fait quelques recherches sur Tumblr, je n'ai pas retrouvé le blog de Lindsay actuellement. Je suis allé dans la Wayback Machine, j'ai retrouvé des extraits de son blog, j'ai retrouvé des pages, tout ça, mais j'ai pas retrouvé son contenu radical. Donc, j'ai l'impression que même dans la Wayback Machine, il y a eu un ménage qui a été fait.
Ah, ça se peut, hein?
Ben oui. Par contre, on peut retrouver plein de ces trucs, ce qui est un peu troublant, là, je vous invite pas à le faire, mais on peut retrouver plein d'imageries que Lindsay a fait sur Tumblr, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment archivé ce contenu-là, puis là on tombe encore dans un monde quand même assez extrême, parce qu'il y a des gens qui l'ont amené presque au statut de reine, là, elle, Lindsay, là, c'est la queen des Columbiners d'une certaine façon, donc elle a quand même une certaine admiration encore de la part de cette sous-culture-là. Elle dit qu'elle aimerait bien un jour terminer un livre qu'elle a commencé, mais bon, elle a plus accès à un ordinateur, mais le livre sur lequel elle travaillait s'appelle « If a Skull Could Blush ». Et puis, étrangement, c'est à propos d'un homme qui tombe amoureux de la mort et qui souhaite accomplir des meurtres avec elle. Donc, ce qui est un peu anecdotique en lien avec ça, c'est que elle a commencé à écrire ce blog-là quand elle était justement à l'école secondaire, avant l'histoire des Columbiners. Puis, étant donné qu'elle voulait... elle voulait intégrer une tuerie de masse dans son livre, mais elle a commencé à se renseigner, puis c'est là qu'elle est tombée sur Columbine, et c'est là qu'elle a découvert qu'il y a des gens qui les admiraient, et c'est par ce fait même qu'elle s'est un peu convertie à cette sous-culture-là. Donc vraiment, elle a comme c'est en cherchant vraiment de l'information pour son livre qu'elle est tombée là-dessus, puis qu'elle s'est rendue compte que ça lui plaisait. Donc, encore une fois, on dirait que ça fait quelques exemples comme ça qu'on a dans d'autres histoires où des gens... virent sur le top. Mm. Parfois, c'est anecdotique. Ils cherchaient quelque chose dans un but complètement autre, ouais. Puis ils tombent dans une espèce d'endoctrinement. Donc, évidemment, ce livre-là est fortement inspiré de sa vie réelle, mais là, j'ai aucune idée si ça va voir le jour un de ces jours. Mais malheureusement, il y a encore... Ce groupe-là, les Columbiners, existe encore et ils ont été nourris par cette histoire qui fait en sorte qu'ils n'arrêteront pas maintenant là, de discuter de tout ça. Il y a peut-être même d'autres plans en planification que ça fait quand même peur.
Moi, je me demande si les autorités, ben peut-être qu'ils l'avaient déjà à l'œil, mais je me demande s'ils sont pas plus vigilants par rapport à Tumblr ou même à ces messages radicaux là qui circulent sur le web au Canada. Là. D'après moi, ça a dû élever un peu plus le niveau de surveillance, j'ai l'impression.
Oui, c'est possible. Ben, j'ose croire que oui, ces autres blogs-là doivent être surveillés maintenant, puis il doit y avoir des gens qui regardent étroitement dans ces sous-communautés-là, parce qu'il y a eu plein d'articles qui sont sortis là-dessus suite à cette histoire-là. Hein. Vice en ont parlé, oui. Et puis il y a eu la lumière enfin le dévoilée sur les Columbiners, parce qu'après, avant ça, le grand public avait aucune idée que ça existait, ce sous-groupe-là. Là.
Non, t'as raison, c'est que ça leur a donné en plus de la visibilité, puis ça l'a dû... accentuer de nouveaux membres Columbiners. Là, je suis sûr qu'il y a eu des nouveaux fans à cause de ça. On s'en sort pas, hein?
Ben non. Ben Seb, je pense qu'on a fait quand même le tour de la question aujourd'hui. Un sujet qui est très d'actualité encore une fois.
La radicalisation sur Internet et le contrôle des armes à feu, c'est quelque chose qui nous titille depuis longtemps. Là, mm-hmm. qu'on voulait en parler, puis même cette histoire-là de Lindsay, ça fait quand même longtemps qu'on veut en parler. Là, on le fait, puis on espère que vous avez aimé l'histoire et que vous allez être plus vigilant par rapport à votre entourage, à ce qu'il publie sur les réseaux sociaux, parce que de ce qu'on peut voir, on sait jamais où ce que ça peut aller.
Exactement. Donc, chers Distordus, merci de votre écoute si précieuse pour nous. Vous savez où nous trouver sur les réseaux sociaux, Distorsion Podcast sur Facebook, Instagram, Distorsion Pod sur Twitter, Distorsion Podcast sur YouTube aussi. On est aussi sur Untappd, le réseau social de bière. On est un petit peu négligent, là. On devrait y retourner bientôt. Ouais,
on va vous ajouter là, les nouveaux, des gens qui nous ajoutent comme amis. Là, vous en faites pas. On a terminé les tournages. On va avoir plus de temps pour s'occuper de vous.
Exactement. Et sur ce, Seb, aurais-tu un mot de la fin pour nous ce soir?
Prenez garde. Il se peut que le groupe de discussion privée de Distorsion vous radicalise. Vous voudrez de plus en plus manger de la tarte à la lime et boire de la IPA.
Oh oui.